C'est en tant qu'il habite au milieu de son peuple que Dieu est en même temps, pour ce peuple, celui qui le sanctifie, une présence permanente seule peut sanctifier. Cela ressort avec une évidente clarté si nous remarquons que plus la présence de Dieu était immédiate, plus était élevé le degré de sainteté. Parce que Dieu habitait au milieu d'eux, le camp était saint, toute souillure devait en être éloignée avec soin. Mais la sainteté du parvis entourant le tabernacle était plus grande, des souillures tolérées dans le camp ne pouvaient l'être dans le parvis. Puis le lieu saint était encore plus saint, parce qu'il était plus près de Dieu. Enfin, le sanctuaire intérieur, où la présence de Dieu habitait sur le propitiatoire, était le lieu très saint, le lieu le plus saint. Et ce principe est ferme, la sainteté se mesure par la proximité de Dieu, plus sa présence est réelle, plus la sainteté est vraie, une habitation parfaite de Dieu dans un lieu, dans un cure, communiquera à ce lieu, à ce cure une parfaite sainteté. Personne n'est saint sinon le Seigneur, il n'y a de sainteté qu'en lui. Il ne peut se séparer d'une partie de sa sainteté, et nous la communiquer séparément de sa personne divine, seulement nous avons d'autant plus de sainteté, que nous avons Dieu habitant en nous. Et pour l'avoir lui, vraiment, pleinement, nous devons l'avoir comme celui qui habite en nous par la foi. Il n'y a pas d'union aussi intime, aussi réelle, aussi parfaite que celle d'une vie qui vient habiter en nous. Voyez la vie qui circule dans un arbre vigoureux et fertile. Comme elle en pénètre et en remplit toutes les parties. Comme elle unit d'une manière inséparable tout l'ensemble, aussi longtemps qu'elle existe réellement. Cette vie est la vie de la nature, la vie de l'Esprit de Dieu, qui réside et agit dans la nature. C'est la même vie que celle qui anime nos corps, l'Esprit de la nature, pénétrant toutes les parties de celle-ci de la puissance de sentir et d'agir. 3. L'habitation de l'Esprit, qui produit cette vie nouvelle par laquelle Dieu fait du croyant sa demeure n'est pas moins intime. Que dis-je? Elle est plus merveilleuse et plus réelle si possible. Et c'est lorsque cette habitation devient une question de foi ardente et comme une sainte passion que l'âme obéit au commandement « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux » et qu'elle expérimente la vérité de cette promesse « Ce lieu sera sanctifié par ma gloire, j'habiterai au milieu des enfants d'Israël ». C'est comme celui qui habite au milieu de son peuple, que Dieu se révèle en son Fils, qu'il a sanctifié et qu'il a envoyé dans le monde. Plus d'une fois le Seigneur a insisté là-dessus, « Croyez-moi que je suis dans le Père, et que le Père est en moi, le Père qui demeure en moi est celui qui fait les œuvres. » C'est spécialement comme temple de Dieu, que les croyants sont souvent appelés saints dans le Nouveau Testament, le temple de Dieu est saint, et vous êtes ce temple. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint au Seigneur. C'est, ainsi que nous le comprendrons mieux plus tard, parce que c'est par l'Esprit, que le cure est préparé à l'habitation de Christ en nous, et que cette habitation est effectuée et maintenue, que l'Esprit prend d'une manière toute spéciale l'attribut de saint. L'Esprit qui vient habiter en nous, c'est le Saint-Esprit. La mesure dans laquelle il habite en nous, ou plutôt dans laquelle il nous révèle l'habitation de Christ en nous, voilà la mesure de la sainteté. Nous avons vu quels étaient les différents degrés de la proximité de la présence de Dieu en Israël. Ces divers degrés se retrouvent aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui demeurent dans le camp, mais qui savent peu ce que c'est que de s'approcher du lieu saint. Puis il y a les chrétiens qui appartiennent au parvis extérieur, ils soupirent après le pardon, la paix, ils reviennent sans cesse à l'autel des expiations, mais ils ne connaissent que peu ou point la vraie proximité de Dieu, la sainteté, leur privilège de sacrificateur d'entrer dans le lieu saint. D'autres, qui savent que c'est là leur sainte vocation, qui désirent ardemment entrer, et qui cependant, comprennent avec peine la hardiesse qu'ils ont d'entrer dans le lieu très saint et d'y demeurer. Heureux sont ceux à qui ce secret de l'Éternel a été révélé. Ils savent ce que signifie le voile du temple déchiré du haut en bas, et ce qu'est l'accès à la présence immédiate du saint. Le voile a été ôté de leur cure, ils ont compris que le secret de la vraie sainteté, et dans l'habitation du Saint en nous, du Dieu qui est saint et qui sanctifie. Croyant, le Dieu qui t'appelle à la sainteté, est le Dieu qui apporte la vie à l'âme qui le reçoit. Le tabernacle en est le type, le Fils nous le révèle, l'Esprit nous le communique, la gloire éternelle le manifestera pleinement. Et vous pouvez en faire vous-même l'expérience. En tant que croyant, c'est notre vocation d'être de saint temple de Dieu. Oh! Livrez-vous sans réserve à cette parfaite habitation de Christ en vous. Ne cherchez pas la sainteté d'abord, en ce que vous êtes ou en ce que vous faites, mais cherchez-la en Dieu. Ne la cherchez pas même comme un don de Dieu, cherchez-la en Dieu, dans sa présence habitant en vous. Adorez-le dans la beauté de sa sainteté, comme celui qui habite dans les lieux hauts et saints. Et quand vous l'adorez, écoutez-le vous dire, ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme, contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Ésaïe 57, 15. C'est dans la mesure où l'esprit nous fortifie puissamment dans l'homme intérieur, tellement que Christ habite dans nos cœurs par la foi, et que le Père vient et fait sa demeure avec Christ en nous, que nous sommes véritablement saints. Oh ! Que, aussi complètement que le tabernacle, où le temple était consacré à la demeure du Très-Haut, l'habitation de sa sainteté, nous nous livrions absolument à lui par une entière et vraie consécration. Une maison remplie de la gloire de Dieu, un cœur rempli de toute la plénitude de Dieu, voilà la promesse de Dieu, voilà notre portion, notre héritage. Qu'avec foi nous demandions, acceptions, retenions fermement cette grâce. Christ, le Saint de Dieu, venant au nom de son Père, entrer dans notre âme et en prendre possession. Alors la foi apportera la solution de toutes nos difficultés, la victoire par laquelle nous triompherons de toutes nos chutes, et par laquelle aussi nous verrons l'accomplissement de tous nos désirs. Le secret révélé de la vraie sainteté, le secret de la joie ineffable, c'est Christ habitant dans le cœur par la foi. Soyez saints, car je suis saint. Nous fléchissons les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, pour qu'il nous accorde, selon les richesses de sa gloire, ce qu'il nous a enseigné à lui demander. Nous ne demandons rien moins que ceci, savoir que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Nous désirons ardemment cette habitation bénie, permanente, consciente du Seigneur Jésus dans notre cœur, habitation qu'il a, clairement promise comme le fruit de l'effusion du Saint-Esprit. Ô Père, nous te demandons ce que ton Fils entendait quand il disait « Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui ». Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ô, accorde-nous cette habitation de Christ dans nos cœurs par la foi. Et veuille, en conséquence, nous t'en supplions, nous accorder d'être puissamment fortifiés par ton esprit dans l'homme intérieur. Ô Dieu très bon, entends notre prière, notre supplication. Nous nous prosternons humblement à tes pieds. Nous faisons valoir devant toi les richesses de ta gloire. Nous te louons, ô notre Dieu. Toi qui es puissant pour faire au-delà de ce que nous osons demander ou penser. Nous nous attendons à toi. Que ce ne soit plus nous qui vivions, mais Christ en nous. Nous te le demandons au nom de ton Fils. Amen. L'habitation de Dieu au milieu d'Israël était le grand fait central, auquel étaient subordonnés, comme préparatoire, tous les commandements concernant la sainteté. De même, l'œuvre du Saint-Esprit a son point culminant dans l'habitation personnelle de Christ en nous. Ayez cela en vue, et attendez-le. Jean 14, 12,23 Éphésiens 3, 16. De le tabernacle avec ses trois divisions était, comme pour d'autres vérités spirituelles, l'image de la triple nature de l'homme. Notre esprit est le lieu très saint, où Dieu veut habiter, et où le Saint-Esprit est donné. La vie de l'âme, avec sa puissance de sentir, de savoir et de vouloir, est le lieu saint. Et la vie extérieure du corps, la conduite, l'action, est la cour ou le parvis extérieur. Commencez par croire que l'esprit demeure dans le sanctuaire le plus intime, où son action est secrète et cachée. Honorez-le en vous confiant en lui pour le travail, en vous livrant à lui dans une silencieuse adoration devant Dieu. De l'intérieur, il prendra possession de vos pensées, de votre volonté, il remplira même le parvis extérieur, le corps, de la sainteté de Dieu. Le Dieu de paix lui-même vous sanctifiera tout entier, et tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps, sera conservé irrépréhensible, pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et il le fera. 3 voir psychologie biblique du Dr Beck. Tubing. Saint en Christ. 9e jour. Sainteté et médiation. Tu feras une lame d'or pur et tu y graveras. Sainteté à l'Éternel. Elle sera sur le front d'Aaron et Aaron sera chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël, en faisant toutes leurs saintes offrandes, elle sera constamment sur son front devant l'Éternel, pour qu'il leur soit favorable. Exode 28, 30, 38. La maison de Dieu devait être le lieu de la demeure de sa sainteté, le lieu où il devait se révéler comme le saint, dont on ne devait s'approcher qu'avec crainte et tremblement, et comme celui qui sanctifie, attirant à lui tous ceux qui désirent être faits participants de sa sainteté. Le centre de la révélation de sa présence et de sa présence en tant qu'elle sanctifie se trouvait dans la personne du souverain sacrificateur, en sa double qualité de représentant de Dieu dans ses rapports avec l'homme et de l'homme dans ses rapports avec Dieu. Il est la personnification de la sainteté divine sous une forme humaine et de la sainteté humaine comme don de Dieu, pour autant que la dispensation des symboles et de l'ombre des choses à venir pouvait le présenter et l'exprimer. En lui, Dieu s'approchait pour sanctifier et bénir son peuple, en lui, le peuple venait à Dieu et s'en approchait. Et cependant le jour même des expiations, jour dans lequel il était permis au grand prêtre d'entrer dans le lieu très saint, ce jour-là, dis-je, était une preuve bien évidente de la souillure de l'homme et de son incapacité de demeurer en la présence de Dieu. Lui, le souverain sacrificateur, preuve évidente de la souillure d'Israël, était cependant un type et comme une image du Sauveur attendu, notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, représentation merveilleuse du chemin par lequel, dans les âges futurs, la sainteté deviendrait la portion de son peuple. Parmi les nombreux points par lesquels le souverain sacrificateur typifiait Christ, comme notre sanctification, il n'en était peut-être aucun qui fût plus suggestif et plus beau que la tiare sainte qu'il portait sur son front. Tout ce qu'il portait devait être saint. Ses vêtements étaient de saints vêtements. Mais il devait y avoir une chose dans laquelle cette sainteté atteignait sa pleine et entière manifestation. Sur le front du souverain sacrificateur devait se trouver une lame d'or avec ces mots gravés dessus, « Sainteté à l'Éternel ». Tous devaient y lire que l'objet suprême de son existence, la chose pour laquelle il vivait, c'était d'être la personnification, le porteur de la sainteté divine, l'élu par le moyen duquel la sainteté de Dieu devait découler en bénédiction sur le peuple. Le moyen par lequel la bénédiction de cette sainteté devait agir était très remarquable. En portant sainteté à l'Éternel sur son front, il doit, ainsi que nous le lisons, être chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël, en faisant toutes leurs saintes offrandes, afin que l'Éternel leur soit favorable. Pour chaque péché, un sacrifice ou quelque moyen d'expiation avait été institué. Mais que faire pour ce péché, qui s'attache au sacrifice même, ou à quelque partie du service religieux lui-même? Tu désires la vérité dans le cœur. De quel poids douloureux peut et doit être pressé le vrai adorateur par le sentiment que son humiliation, ses pénitences, sa foi, son amour, son obéissance, sa consécration, tout est imparfait et souillé? Eh bien là même Dieu y avait pourvu. La sainteté du grand prêtre couvrait le péché et la souillure des choses saintes qu'il offrait. La tiare sainte, placée sur son front, était pour l'adorateur de l'Éternel une garantie que la sainteté du grand prêtre le rendait acceptable devant Dieu. Si lui, adorateur du Dieu saint, était souillé, il s'en trouvait un au milieu de ses frères qui étaient saints, un qui avait une sainteté, dont il pouvait se prévaloir et sur laquelle il pouvait compter. Il pouvait s'adresser au grand prêtre, non seulement comme à celui qui faisait l'expiation, par l'aspersion du sang, mais qui pouvait aussi, dans sa propre personne, lui assurer une sainteté, qui lui rendrait lui et son offrande acceptable devant Dieu. Dans le sentiment de sa souillure, il pouvait se réjouir de ce que Dieu lui avait donné à un médiateur, se réjouir de la sainteté d'un autre que lui-même, du grand prêtre que Dieu avait établi pour son peuple. N'avons-nous pas là une précieuse leçon, nous faisant faire un pas en avant dans le chemin de la sainteté? À notre question, comment Dieu rend-il saint? Nous avons cette réponse divine, par le moyen d'un homme, que la sainteté de Dieu a choisi pour y faire sa demeure, et dont la sainteté est nôtre en tant que nous sommes ses frères, les membres de son corps, par une sainteté qui a une telle efficace, que les péchés même des choses saintes, que nous faisons sont ôtés et que nous pouvons entrer en la sainte présence de Dieu avec l'assurance d'être agréable à ses yeux. Et n'est-ce pas là précisément l'enseignement que plus d'un chercheur sérieux de la sainteté demande? Ils savent tous ce que la parole enseigne concernant l'expiation et le pardon complet qu'elle a procuré. Ils croient à l'amour infini du Père et à ce qu'il est prêt à faire pour eux. Et cependant, quand ils entendent parler de la simplicité enfantine, de l'assurance que donne la foi, de l'abandon absolu, que le Père attend de ceux qui viennent à lui et qui reçoivent cette bénédiction, leur cœur tremblé leur fait défaut. C'est comme si la bénédiction dans ces conditions était hors de leur portée. À quoi leur sert d'entendre dire que le saint s'approche si près d'eux? Leur souillure les rend impropres à réclamer ou à saisir la présence qui s'offre à eux. Mais voyez comment le Saint révèle ici le moyen qu'il emploie pour nous sanctifier et nous préparer à la communion de sa sainteté. En celui qui est son élu, comme médiateur, la sainteté est préparée, conservée précieusement pour tous ceux qui viennent à Dieu par lui. Quand je me prosterne, que je prie et que j'adore et que je sens tout ce qu'il me manque de l'humilité, de la ferveur, de la foi que Dieu est en droit d'attendre de moi, je puis regarder au souverain sacrificateur dans sa sainteté, à la tiare sainte qu'il porte sur son front et croire que l'iniquité, le péché, qui s'est attaché à mon service pour Dieu, a été porté par lui et ôté. Je puis savoir avec certitude que malgré tous mes manquements et toute mon indignité, mes prières sont acceptées comme une odeur de bonne senteur, comme le parfum du soir. Je puis regarder au Dieu trois fois saint et le voir me sourire pour l'amour de son oint. La lame d'or sera constamment sur son front devant l'Éternel pour qu'il leur soit favorable. C'est là la précieuse vérité de la substitution un pour tous de la médiation, c'est le moyen choisi de Dieu pour nous sanctifier. Le sacrifice de l'adorateur israélite est saint et acceptable en vertu de la sainteté d'un autre? Les ombres de l'Ancien Testament ne peuvent jamais représenter d'une manière parfaitement adéquate, précise, les réalités du Nouveau Testament avec sa plénitude de grâce et de vérité. À mesure que nous avancerons dans notre étude, nous verrons que la sainteté de Jésus, notre sanctification, ne nous est pas seulement imputée, mais nous est communiquée parce que nous sommes en lui, le nouvel homme que nous avons revêtu a été créé en vraie sainteté. Nous ne sommes pas seulement considérés comme saints, nous sommes saints. Nous avons reçu une nature nouvelle, sainte, en Jésus-Christ. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Hébreux 2, 11 sait notre union vivante avec Jésus, le Saint de Dieu, qui nous a procuré une nature nouvelle et sainte, plus encore, un droit, une part à la sainteté qui est en Jésus. Et ainsi, aussi souvent qu'il nous arrive de sentir combien nous sommes éloignés encore de la sainteté, ou combien notre souillure est grande, nous nous plaçons sous le couvert de la sainteté de Jésus, avec la pleine assurance que nous et notre offrande sommes agréables à Dieu dans son bien-aimé. Quelle que soit la faiblesse de notre foi, l'insuffisance de notre désir de glorifier Dieu, et malgré tout ce qui manque à notre amour, à notre zèle, lorsque nos regards s'arrêtent sur Jésus, lorsque nous voyons sur son front divin la lame d'or, avec sainteté à l'Éternel, nous sentons que nous pouvons tourner notre visage vers lui afin de recevoir son divin sourire, qui nous dit que nous sommes pleinement approuvés de Dieu et acceptés devant lui. Au livre du prophète Zacharie, nous lisons que dans le jour de l'Éternel, les clochettes des chevaux porteront sainteté à l'Éternel. La devise du grand prêtre sera devenue alors le mot d'ordre de la vie journalière, chaque objet d'art ou servant à notre usage sera saint aussi, de la tête, la sainteté descendra jusqu'au bord des vêtements. Mais commençons par réaliser la sainteté de Jésus dans sa puissance pour couvrir l'iniquité qui s'attache même à notre service pour Dieu, faisons-en l'épreuve et ne permettons pas plus longtemps à notre indignité de nous retenir ou de nous faire douter, croyons que nous et notre service sommes acceptés parce que nous sommes saints en Christ, le Seigneur, vivons dans le sentiment de cette acceptation et entrons dans une communion vivante avec le Saint. À mesure que nous entrerons et que nous habiterons dans la sainteté de Jésus, cette sainteté entrera et habitera en nous. Elle prendra possession de notre vie entière et y répandra sa puissance conquérante, jusqu'à ce qu'il nous arrive, à nous aussi, que sur toutes les choses qui nous appartiennent brillera en lettres de feu cette parole, sainteté à l'Éternel. Et nous ferons encore cette expérience, combien la voie, le chemin de Dieu pour la sainteté, part incessamment d'un centre, et ici le centre est notre nature renouvelée, et s'étend en cercle toujours plus étendu, prouvant la puissance de la sainteté. Demeurons seulement enveloppés de la sainteté de Jésus, lorsqu'il ôte l'iniquité du service, que nous rendons à Dieu, car il veut nous rendre, nous et notre vie, saints au Seigneur. Soyez saints, car je suis saint. Ô mon Dieu, mon Père, mon âme te loue et te bénit pour cette admirable révélation de ce que sont tes voies et ta grâce pour ceux que tu as appelés saints en Christ. Père Saint, ouvre nos yeux, afin que nous voyions, et nos cures, afin que nous comprenions la signification de cette tiare sainte que tu nous fais voir sur le front de notre souverain sacrificateur, avec cette devise merveilleuse et bénie, sainteté à l'Éternel. Amen. La sainteté n'est pas quelque chose que je puisse voir ou admirer en moi, la sainteté pour moi c'est de me mettre à couvert, de me perdre dans la sainteté de Jésus.